Bon, on commence ce matin par le dossier du Cirque du Soleil, Pierre-Yves. 200 millions de dollars américains, c'est l'offre d'aide du gouvernement du Québec.
Et tu le dis, c'est une offre. Pour commencer, il faut comprendre que la ronde des négociations a commencé. Le cirque est en restructuration. Oui, M. Laliberté a vendu ses parts très chères dans le passé. Oui, ça a forcé les actionnaires à s'endetter pour faire l'acquisition. En tout cas, c'était la stratégie d'acquisition, optimiser le rendement du capital. Et là, on est devant une situation où il n'y a plus de revenus, il n'y a plus d'employés pratiquement, et on est face à une restructuration nécessaire. Alors, le gouvernement se dit, bon, j'ai mon bras économique, là, ma Banque du Québec, c'est-à-dire Investissement Québec, qui a deux bras. Un bras qui est de faire du rendement comme une banque, c'est-à-dire de prendre des PME, les aider à croître en leur donnant du financement acceptable et faire un rendement sur ça, qui couvre le coût des fonds et le coût de l'emprunt pour le gouvernement. Et de l'autre côté, il y a une espèce de fonds économique qui sert à faire des interventions politiques. Et ici, on semble dire que le prêt est à des conditions correctes. Évidemment, si le prêt était à des conditions de marché, le gouvernement ne serait pas là-dedans. Si on est à 200 millions puis on arrive avec un prêt comme ça, c'est parce qu'il y a une option d'achat. Donc, l'option vient réduire la portée du rendement que tu peux faire avec le prêt. Tu vas chercher une garantie en échange. Et tout ce qu'on veut finalement, c'est de garder ça dans le contrôle du Québec ou dans le contrôle du gouvernement. C'est-à-dire, qui va décider qui sera le propriétaire ou fera-t-il partie du groupe, oui ou non? Parce que le but d'Investissement Québec, pas c'est jamais d'être actionnaire majoritaire, ni celui de la caisse. C'est de participer à quelque chose. Parce que le but, c'est pas de gérer des entreprises. On veut pas devenir PDG de toutes les entreprises du Québec, là, ni actionnaire de contrôle plutôt. Donc, tu comprends que ça, c'est le but. Donc, mais là, si disons, il y a un groupe québécois qui arrive avec du financement extérieur, puis il dit, on va acheter le cirque, peut-être que le Québec va se retirer, ou peut-être que le Québec va rester dans le deal.
Mais tu sais, ça vaut combien le Cirque du Soleil?
C'est une bonne question. Parce qu'une entreprise, c'est la valeur de ce que ça peut te générer dans le futur. Là, évidemment, si tu te bases sur les dernières transactions qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, on pourrait dire, ben, monsieur Laliberté, vous voulez racheter le cirque, repayer le prix que vous avez payé par action, qu'on vous a payé par action. Évidemment, ça ne marche pas comme ça parce que la donne a changé.
L'autre ben, affaire, ça vaut moins qu'à l'époque où il a vendu.
Mais ça vaut moins qu'il ça vaut moins que 3 mois, pas là.
Ouais, c'est ça.
Moins 4 mois. Ça vaut moins qu'il y a très, très peu de temps. C'est ça le problème. Et ajoute à ça le fait de dire on veut protéger l'intérêt. Et donc, si un fonds de capital de risque qui est dans le deal, comme TPG, ben un fonds de capital de risque ou un fonds d'investissement privé, ça a un horizon de sortie. C'est ça que M. Fitzgibbon parlait. Souvent, c'est 5, 7 ou 10 ans. Pour en avoir audité quelques-uns, Paul, je peux dire à l'époque, c'est ça. Tu as une stratégie de sortie. Donc, tu investis, tu optimises les finances, tu parais bien pour la revente, puis tu vends. Non, c'est comme quand tu pars d'une maison. Tu fais du home staging, donc tu coupes d'un coup, tu améliores les processus et tout ça, puis une fois que c'est fait, tu vends. Et là, on veut pas au Québec se retrouver devant une vente à n'importe qui. Alors, on met cette espèce d'option-là de dire, on vous donne 200 millions à des conditions qu'on semble donner pseudo-favorables en échange d'avoir notre mot à dire si TPG décide de vendre. Et c'est pour ça que le deal est avec principalement les actionnaires actuels. Parce qu'on dit, ça va dépendre de qui entre dans l'entreprise par la suite. Mais c'est sûr que ça paraît mal. T'as un milliardaire qui fait fortune avec une entreprise, qui fait la dernière transaction qui est générée dans les derniers mois, mais qui se close, hein, qui se concrétise en février, et la pandémie éclate, et là, il dit, moi, je suis prêt à racheter, mais à rabais. Le gars qui a vendu la compagnie, avec des nouveaux propriétaires qui ont été obligés d'endetter la compagnie pour le payer, propose de racheter la compagnie à rabais. Mais c'est sûr, c'est plus la même réalité. Mmh. Et l'autre affaire, le cirque doit se réinventer quelque part. Parce que, oui, on a été bien impressionnés à une époque, mais le commentaire qui revient souvent, c'est oui, t'as vu haut, puis ces spectacles-là qui sont spéciaux, mais quand t'arrives aux autres types de spectacles, t'as une impression de déjà vu, t'as même formule, de, tu changes le thème, la musique, puis mais ça demeure que le monde a changé depuis que le cirque était à son apogée. Alors la question, c'est est-ce que le spectateur dans 10, 15, 20 ans ou 5 ans a encore l'intérêt pour le même type de spectacle? Et est-ce que les boomers puis les vieux X qui remplissaient des salles, je dis vieux X, excuse-moi, les X les plus majoritaires en âge, excuse-moi Paul, désolé.
On est là pour vivre quelques controverses.
C'est ça. Est-ce que ils vont être encore dans les salles et la nouvelle génération, est-ce qu'elle remplace? Tu sais, le baseball a cette problématique-là. Les jeunes sont moins dans les stades, donc c'est le même principe.
Un petit mot aussi sur les gens qui ont peut-être acheté ou vendu un condo usagé. Là, il y a peut-être des taxes qui vont être ajoutées au total.
Il y a bien des gens qui disent « Ah, j'ai un condo, je vais en acheter un deuxième, puis je vais louer ça à Airbnb. Ouais. » Hein? Puis je vais louer ça à Airbnb. Donc, dans 90% du temps, il va être disponible à la location Airbnb. Attention, si ça a été votre modèle d'affaires, même si vous avez payé un condo à l'époque, je sais pas moi, 250 000, puis qui n'était pas taxable parce que vous avez acheté ça d'un particulier, vous en avez fait une activité commerciale. Et donc, le condo, dans certaines conditions, devient taxable. Donc, imagine, tu as payé un condo de 250. Tu leur vends, disons, 275 ou 300 000. En plus de payer l'impôt sur le gain capital, Revenu Québec puis l'Agence du revenu du Canada pourraient t'arriver dans quelques mois puis te dire « Hey, en passant, t'as-tu chargé TPS TVQ là-dessus en plus? » Ben non. Ben là, tu nous dois 45 000 sur ton 300 000. Mais ben, je l'ai même pas chargé. C'est pas notre problème. T'as contrevenu à la loi. Il y a des gens qui vont sauter de 6 pieds ce matin, là. Mais il y a tellement de condos en vente, plus TPS, TVQ ces temps-ci, qui sont usagés. Demandez-vous pas pourquoi. C'était des condos Airbnb et ils sont retournés sur le marché. Et ça te donne un désavantage par rapport à tes voisins. Si tu veux le vendre, tu dois taxer. Et n'oubliez pas aussi, si vous louez une chambre Airbnb dans votre maison, c'est un gain taxable. Il y a plein de monde présentement qui me dit « Pierre-Yves, c'est imposable ça quand je loue mon appart Airbnb. » Il y a des gens qui me disent que non, c'est comme de la colocation. Ben c'est ça. Il y a des gens qui vendent des bateaux puis qui disent que c'est juste du pré-échange aussi. C'est taxable. C'est
merci, imposable. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée, 7h22.